Madame, Monsieur, rebonjour, ravi de vous retrouver. À la une de ce journal, le retour des États-Unis au JCPOA, l'accord nucléaire iranien, n'importe pas pour l'Iran. Si les sanctions ne sont pas levées, déclaration ce matin du président du Parlement iranien. Un enfant syrien a été tué et sa mère blessée lors d'un bombardement américain visant une campagne au nord de Deir ez-Zor. Et puis, Donald Trump pourrait se retrouver dès lundi sous le coup d'une seconde procédure de destitution. C'était les principaux titres que nous allons développer tout de suite dans ce journal. Restez avec nous. Le président du Parlement iranien a réitéré, je vous le disais en titre, sur le fait que Téhéran respectera ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 si les autres parties respectent leur part du pacte. Mohammad Borrell Rolibov dit que l'accord nucléaire de l'Iran avec les puissances mondiales n'est pas un document sacré. Il dit que l'accord visait à lever les sanctions contre l'Iran et que ce qui compte maintenant pour le pays, c'est la suppression pratique de toutes les restrictions imposées malgré le pacte multilatéral. Le très haut parlementaire a déclaré que l'Iran doit avoir cette possibilité de vendre son pétrole, de faire du commerce avec le monde et d'avoir accès au système bancaire mondial. Le président américain sortant, Donald Trump, a quitté le pacte multilatéral en 2018 et a réimposé illégalement les sanctions contre l'Iran. Cependant, le président élu américain Joe Biden a promis de revenir sur l'accord. Production du vaccin anti-COVID-19, alliance stratégique irano-cubaine. Le chef du Centre d'information et de relations publiques du ministère iranien de la Santé et de l'Éducation médicale, Kyanush Dharampour, republiant samedi sur sa page Twitter les déclarations du chef du groupe de réflexion pour le dialogue interaméricain, Mikhail Erschefter, a mis l'accent sur l'alliance géopolitique irano-cubaine dans la production du vaccin anti-COVID-19. Kyanush Dharampour a republié samedi 9 janvier 2021 sur sa page Twitter une partie du discours de Michael Schifter, le président du think tank Dialogue interaméricain basé à Washington. Il n'est pas surprenant si Cuba et l'Iran développent conjointement le vaccin COVID-19. Les deux gouvernements sont soumis à de sévères sanctions américaines qui ont limité toute possibilité de production et d'accès au vaccin. Il s'agit d'une union géopolitique et pragmatique, peut-on lire sur la page Twitter du Dr Dharampour, citant Michael Al-Shifter. L'armée de terre iranienne organise un grand exercice militaire. L'armée de terre organisera un exercice dans les régions du sud-est du pays dans un proche avenir. Cet exercice se déroulera avec le soutien d'autres forces et en utilisant tout l'équipement militaire, a déclaré le commandant de l'armée de terre. Cet exercice est conforme aux ordres du guide suprême de la révolution islamique qui nous a ordonné de prendre la menace ennemie au sérieux et agir avec diligence, a ajouté le général de brigade Qumash Heydari. Ces exercices ont pour objectif de nous préparer au combat et maintenir et améliorer la capacité de défense des unités opérant de l'armée de terre. Ils sont conçus pour mener des combats asymétriques basés sur notre doctrine opérationnelle et se tiendra dans les régions du sud-est d'Iran et dans diverses autres régions frontalières iraniennes. La sécurité des frontières du pays est notre ligne rouge. Les forces terrestres sont stationnées de toutes leurs forces sur les frontières est, sud-est, ouest, sud-ouest et nord-ouest et défendent l'entité sainte de la République islamique d'Iran avec pouvoir, a précisé le commandant de l'armée de terre. Dans l'actualité régionale, un enfant syrien a été tué et sa mère blessée lors d'un bombardement américain visant une campagne au nord de Deir ez-Zor. Les médias syriens affirment que les forces américaines déployées dans la région ont mené une attaque au mortier sur le village d'Al-Azba. Washington a installé quelques centaines de soldats en Syrie sous prétexte de protéger les champs de pétrole et de gaz du pays contre les groupes terroristes. Mais les rapports sur le terrain indiquent que les États-Unis continuent de piller les ressources énergétiques du pays. Les opérations militaires de Washington dans ce pays, ravagé par la guerre, ont eu également des conséquences néfastes sur les civils. Les Israéliens ont organisé une nouvelle manifestation contre le premier ministre Benjamin Netanyahou à Al-Quds. Les manifestants se sont rassemblés devant la résidence de Netanyahou pour condamner sa politique et appeler à sa démission. La manifestation a eu lieu malgré l'interdiction des manifestations. Les Israéliens ont organisé des rassemblements de rue au cours des derniers mois pour protester contre la flambée du chômage, une augmentation des infections au Covid-19 et un retour des restrictions liées au coronavirus. Les accusations de corruption auxquelles le Premier ministre est confronté viennent s'ajouter au sentiment anti-régime. Netanyahou a été jugé en mai pour corruption, fraude et abus de confiance, mais il nie tout acte répréhensible. Accident d'un Boeing en Indonésie, des restes humains et des débris retrouvés. Des plongeurs indonésiens ont repêché des restes humains, des débris et des vêtements dimanche de la mer de Java, où un Boeing s'est abîmé en mer avec 62 personnes à bord. La police a déclaré que les équipes de recherche avaient jusqu'à présent récupéré quelques sacs contenant des restes humains ainsi que ce qui apparaît comme des morceaux de fuselage et des débris. Les opérations de recherche sont toujours en cours. Aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident par les autorités. Selon le ministre indonésien des Transports, l'avion de ligne a dévié de sa route avant de perdre le contact quelques minutes après le décollage. Les autorités affirment que Boeing, âgé de 26 ans, était en bon état, mais le vol a été retardé de 30 minutes en raison de fortes pluies. 62 membres d'équipage et passagers, dont 10 enfants, se trouvaient à bord de l'avion qui se dirigeait vers la ville de Pontianak. Direction l'Europe, au milieu d'une vague de la nouvelle variante Covid-19 trouvée pour la première fois en Grande-Bretagne, plusieurs villes à travers l'Europe ont imposé des restrictions plus strictes. La France a introduit un couvre-feu plus strict le soir dans la ville de Marseille après la découverte de la nouvelle variante. Les responsables disent qu'au moins 21 personnes ont été testées positives pour la nouvelle souche. Strasbourg et Dijon ont également avancé leur couvre-feu. La France a jusqu'à présent enregistré plus de 67 000 décès et plus de 2,7 millions d'infections. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne a franchi le sombre cap des 3 millions d'infections et enregistré près de 81 000 décès. L'Allemagne, qui avait étendu ses restrictions liées au coronavirus, a signalé près de 1100 décès, portant son nombre total de morts à 40 000. Le parti au pouvoir indépendantiste écossais a appelé le Premier ministre britannique Boris Johnson à payer des milliards de livres en compensation des coûts croissants et des perturbations causées par le Brexit. Le chef du Parti national écossais au Parlement britannique a déclaré que les conservateurs alliés de Johnson devaient présenter des excuses aux entreprises écossaises pour les dommages à long terme causés par le Brexit. Ian Blackford a qualifié le Brexit d'acte inutile de vandalisme économique poussé contre la volonté de l'Écosse. Les Écossais ont voté contre le Brexit lors du référendum 2016. Les pêcheurs en Écosse et ailleurs dans le Royaume-Uni sont irrités par leur perte d'accès au marché européen en raison du renforcement de la bureaucratie causée par le Brexit. Cette situation s'est aggravée par l'incapacité de Johnson à reprendre le contrôle total des eaux de pêche après que les Britanniques ont quitté l'Union européenne le 1er janvier. Donald Trump pourrait se retrouver dès lundi sous le coup d'une seconde procédure de destitution. En premier lieu, les démocrates veulent que Trump démissionne ou que le vice-président Mike Pence invoque le 25e amendement de la Constitution américaine pour destituer le président. Si cela ne se produit pas, un certain nombre de démocrates soumettront lundi les textes nécessaires pour permettre un vote. Les législateurs américains appellent de plus en plus à destituer Donald Trump après avoir incité ses partisans à prendre d'assaut le bâtiment du Capitole mercredi. Enfin, Mike Pompeo annule les restrictions dans les contacts avec Taïwan. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annulé samedi 9 janvier toutes les restrictions qui avaient été imposées au fil des ans aux responsables américains dans leurs contacts avec Taïwan. Il n'a pas précisé la nature des restrictions et cette annonce apparaît largement symbolique. Loi de 2018 autorisant déjà des responsables à tout niveau du gouvernement, y compris des membres de cabinet, occupant des fonctions de sécurité nationale, des militaires et d'autres représentants officiels du gouvernement, à se rendre à Taïwan et à rencontrer leurs homologues taïwanais. Cette annonce, qui intervient à moins de 2 semaines de la fin du mandat du président Trump, devrait néanmoins provoquer la fureur de Pékin. Fin de ce journal, merci de votre attention. Madame, messieurs, dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Le projet de développement de Chobahar, est en plein essor. Le marché du passage frontalier de Rimdan dans le département de Dashtiari, province du Sistan et Baloutchistan, relie l'Iran au corridor Chine-Pakistan et joue un rôle important dans le développement des échanges commerciaux entre les pays, a déclaré le PDG de l'Organisation de la zone industrielle et de libre-échange de Chobahar dans un entretien avec l'IRNA. Des 82 000 hectares attribués à la nouvelle zone de libre-échange de Chobahar, 6 300 hectares de la zone frontalière de Rimdan ont été annexés à la zone libre. C'est une étendue et une zone vitale qui peut relier l'Iran au corridor économique entre la Chine et le Pakistan, CPEC. Le marché frontalier de Rimdan donnera aux commerçants et producteurs iraniens accès au marché pakistanais et fera le lien entre l'Iran et le CPEC. Après 5 ans d'efforts permanents et la ratification du plan de développement de la zone, nous en sommes arrivés à un point où les conditions préalables et nécessaires à l'activité de la zone franche sont prêtes, a indiqué Abdelrahim Kordi. Aujourd'hui, les événements à Chobahar montrent que cette ville est sur la voie du développement. Soulignant l'importance du passage frontalier commercial de Rimdan en tant que zone franche distincte de Chobahar, M. Kordi a déclaré que l'un des besoins de cette zone est l'aménagement d'un chemin de fer Chobahar-Gwadar via la frontière de Rimdan. L'aménagement du passage frontalier commercial de Rimdan s'étend dans une première phase sur 120 hectares. En raison de l'afflux des investisseurs à Chobahar, de vastes projets d'urbanisme et d'aménagement ont débuté dans la zone de libre-échange. Ils s'évaluent au total à 2 500 milliards d'ottomans. 1 600 milliards d'ottomans sont consacrés aux projets d'urbanisme qui ont plus ou moins avancé. Le reste, évalué à 937 milliards, sera exploité d'ici la fin du mandat du président actuel Hassan Rouhani. La majorité du projet est consacrée au développement du secteur industriel et touristique. Ces projets d'envergure sont une aubaine pour Chobahar qui n'attend que progrès et modernisme. Avec l'achèvement des plans nationaux des compagnies d'acier et de pétrochimie, Chobahar deviendra le pôle industriel et économique du pays. Le développement étant désormais reconnu comme un processus multidimensionnel, M. Kordi a fait allusion aux activités de son organisation dans le sens du bien-être et de l'amélioration de la vie des habitants de Chobahar. Le développement de la zone de libre-échange apporte d'innombrables nouvelles opportunités aux habitants. Des mesures urgentes ont été prises pour améliorer l'éducation, le service de santé et autonomiser la communauté locale, a-t-il ajouté.